Il est midi, Info Week-end avec Léo Fichou.
Double célébration religieuse ce dimanche matin à Nouméa, la fête de la Pentecôte et l'ordination diaconale de Petelo Tagicia, des commémorations à la cathédrale Saint-Joseph. Au chapitre des faits divers, un grave accident de la route hier soir à Lifou. 4 personnes ont été héliportées vers le Medipol. Le pronostic vital d'un enfant est engagé. De nouveaux cambriolages à Nouméa les nuits dernières à Normandie au PK6. Conséquence, 4 personnes sont en garde à vue ce matin. Rendez-vous politique sur le territoire. Le FLNKS s'est réuni depuis 9h ce matin à la maison commune du GDP Loaka à Dumbéa. La SNSM mobilisée à une semaine de la New Caledonia Group à Mareis. Un exercice de sécurité était organisé hier avec l'équipage Guilty Pleasure. Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir, parole offensive d'Emmanuel Macron en marge de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Le sport du rugby, on connaît les 6 clubs qualifiés pour les phases finales du top 14, mais aussi le barragiste et le club relégué en Pro D2. Et puis du tennis de table en Nouvelle-Zélande avec l'équipe masculine de Nouvelle-Calédonie qui disputera à 13h la petite finale du championnat d'Océanie. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Week-end pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. L'actualité religieuse à la une avec une double célébration aujourd'hui, jour de la Pentecôte. Lors de la célébration de cette fête, ce matin en la cathédrale de Nouméa, le diocèse a accueilli en son sein Petelo Tagicia, un nouveau diacre permanent, Kelly Dabouakou.
La Pentecôte qui célèbre la venue du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après la fête de Pâques. À l'occasion de cette célébration, présidée par l'archevêque de Nouméa, Monseigneur Sione Pué, en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. C'était l'ordination diaconale de Petelo Tagicia. Cette ordination est une première pour Monseigneur Sione Pué.
Jour de joie et de fête, pas seulement célébrer la Pentecôte, mais aussi célébrer la fête de l'ordination diaconale permanente. Et comme ça a été bien précisé, c'est ma première ordination. C'est une fête très importante, la venue et la descente de l'Esprit Saint. L'Esprit qui a donné la force, le courage et l'intelligence aux premiers apôtres pour se mettre en marche, en route, pour l'annonce de l'Évangile. Et pour nous aussi, les chrétiens d'aujourd'hui, donc c'est une grande fête qui nous rappelle les dons que nous avons de l'Esprit-Saint, ces dons que nous sommes appelés à faire fructifier aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui. C'est l'Esprit-Saint qui lui donne cette grâce nécessaire pour être... Et c'est l'Esprit Saint qui va le guider, qui va lui donner la force nécessaire, la lumière, pour être un vrai témoin de l'amour de Dieu.
Cette ordination diaconale a été un long cheminement pour le nouveau diacre, une célébration chargée d'émotions pour le diacre Petelo Tagicia.
Beaucoup d'émotions, j'en ai presque pleuré, mais j'essaie de me retenir parce que je confie tout ça au Saint-Esprit, car je sais que le Saint-Esprit est à côté de moi. Mais aussi chargé d'émotions, c'est pour mon épouse, car je savais, ça fait quelques jours qu'elle se prend beaucoup de choses et je lui dis simplement de pas baisser les bras et de continuer à avancer avec le Seigneur. Sincèrement, l'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est descendu au niveau de tous ses frères et sœurs. Merci encore, Seigneur, pour cet esprit que tu nous offres aujourd'hui, pour que cet amour puisse continuer à grandir dans ce pays. Mais surtout qu'on puisse retrouver la paix dans ce pays. Merci Seigneur Jésus-Christ, merci aussi à la Pentecôte, merci à l'Esprit Saint de nous fortifier.
Les fidèles étaient nombreux ce matin à la cathédrale de Nouméa pour l'accueil de ce nouveau diacre dans le diocèse de Nouméa.
C'est une bénédiction pour le diocèse, une bénédiction pour Petelo. Moi je l'ai connu professionnellement, c'est quelqu'un d'engagé déjà. Et qui était dans le feu, et puis aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un signe, la fête de l'Esprit-Saint, les langues de feu, il va garder cette flamme et maintenant toujours rester au service des paroissiens de ce diocèse.
Beaucoup de joie, surtout en cette fête de la Pentecôte, où l'Esprit-Saint descend en nous. Avoir cette ordination diaconale de Petelo Tagicia, ce n'est qu'une grâce de plus.
Petelo Tagicia qui a donc été pompier pendant 40 ans. Aujourd'hui, il a été ordonné diacre permanent du diocèse de Nouméa.
L'actualité religieuse sur le territoire, c'est aussi le rassemblement de Téné. La jeunesse chrétienne calédonienne sera réunie à partir de demain sur l'hippodrome de Bourail. Le thème de cette édition 2025, c'est celui du jubilé. L'espérance ne déçoit pas, Kelinda.
Il sera plus de 700 jeunes venant des 3 provinces sur le site autour de différents ateliers et activités sportives et ludiques programmées à partir du mardi 10 jusqu'au vendredi 13. 13 juin. Pour accueillir cette jeunesse, les bénévoles du comité Marche pour Notre-Dame en charge de l'organisation sont sur le site pour préparer ce rassemblement. Pour nous en dire plus, le président du comité Marche pour Notre-Dame, Simon-Pierre Sélouis.
Nous avons suivi le thème international, si je puis me permettre ainsi, celui du jubilé 2025, l'espérance ne déçoit pas, qui est tiré, lui, de la lettre aux Romains 5:5. Alors, déjà, comme nous le faisons chaque année, le lundi de Pentecôte, nous aurons l'accueil échelonné de toutes les paroisses, ceux de 8h jusqu'à 17h. Ce lundi même de Pentecôte aura la grande messe d'ouverture qui sera, lui, célébrée par le prêtre accompagnateur, le père Jacques Souta, accompagné du diacre Laurent Nautchoué et de toute la communauté de Téné qui, lui, s'est installée depuis lundi 2 juin et ce, jusqu'à la clôture du mercredi 18 juin. Dans la semaine, nous aurons les temps du matin seront consacrés à la Sainte Eucharistie, qui sera célébrée chaque jour au matin de 7h, suivie bien sûr des enseignements, et dans l'après-midi, ce que nous appelons bien sûr les Notre-Dame sous forme d'ateliers tournants.
Pour Bernard Oufangaléo, l'un des membres du comité Marche pour Notre-Dame, plusieurs nouveautés ont été mises en place pour ce rassemblement de Téné 2025.
La nouveauté, elle va surtout rester au niveau de la méthode. Ce qu'on a ouvert jusqu'à maintenant, les études bibliques vont rester. Parce que bon, c'est pour cela qu'on fait venir, c'était pour amener les jeunes à rencontrer Jésus, dans le Verbe qui s'est fait chair, notamment dans la parole. Mais ce qui va changer, c'est surtout l'après-midi, on poursuit les études bibliques, mais de manière différente. Donc il y a un nouveau groupe de travail qui s'est formé. On va travailler sur un seul texte, mais avec des angles différents. La lection divina, l'actualisation, le sport, et je crois que c'était la vie de tous les jours. Permettre finalement aux jeunes de se prendre conscience que la parole de Dieu ne se vit pas seulement qu'à l'église, mais elle se vit aussi à la maison, dans la vie de tous les jours. C'était dans ce sens-là qu'on a ouvert cet atelier-là. Sinon, on reste ensuite sur la même création qui a été initiée en 2022, à savoir que comme on n'a plus des paroisses d'accueil, ce sont les jeunes qui se prennent en main. Donc l'organisation est partie dans ce sens-là. On a organisé sous forme de Notre-Dame. Il y aura toujours un Notre-Dame qui va jouer le rôle de la paroisse d'accueil, qu'ils prennent conscience qu'à l'époque, les paroisses d'accueil, quand même, ils avaient fait un gros travail. Il y aura un Notre-Dame qui va préparer la veillée du soir, un autre Notre-Dame qui va préparer la messe du lendemain avec la procession du samedi soir, et un autre Notre-Dame qui sera sur les études bibliques.
Ce sont donc 700 jeunes chrétiens qui seront attendus demain sur l'hippodrome de Bourail pour ce rassemblement de Téné 2025. La messe d'accueil de cette jeunesse calédonienne sera célébrée à 17h demain soir par le père Jacques Souta.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
Au chapitre des faits divers, maintenant, un nouvel accident de la route. Hier soir à Lifou, accident qui s'est produit vers 21h45 à Oué. Un seul véhicule est impliqué. Le conducteur en a perdu le contrôle et a percuté un rocher sur le bord de la route. À bord de ce véhicule, l'homme était accompagné de 5 mineurs. 4 personnes ont été héliportées cette nuit vers le Médipol. Le pronostic vital d'un des enfants est engagé. La gendarmerie toujours mobilisée du côté de Touhot. Une 60aine d'hommes sont sur place depuis hier pour éviter des débordements. Pour rappel, hier matin, les gendarmes ont dû s'interposer entre des clans dans un nouveau conflit, alors que plusieurs tribus s'étaient déjà affrontées en début de semaine, faisant plusieurs blessés et plusieurs interpellations. Et puis du côté de Nouméa, 2 nouveaux cambriolages les nuits dernières. Conséquence, 4 personnes sont en garde à vue ce matin. Michael Juneski.
Dans la nuit de vendredi à samedi d'abord, une épicerie de Normandie a été cambriolée. Les malfaiteurs sont partis avec la caisse grâce à un important dispositif de la police nationale. 2 d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue. La nuit dernière, c'est au 6e kilomètre qu'un magasin de proximité a été cambriolé. Là aussi, 2 personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue. Les enquêtes se poursuivent. Les policiers nationaux qui enchaînent les nuits agitées. De nombreux jeunes ont fêté le début des vacances. Des soirées étaient organisées, notamment dans le centre-ville et sur les baies. Parfois, des situations nécessitant la présence des forces de l'ordre. Les policiers sont donc intervenus à de très nombreuses reprises pour des rassemblements sur la voie publique et des tapages nocturnes. Des contrôles d'alcoolémie ont notamment été réalisé à ces occasions.
L'actualité politique à présent. Le FLNKS réunit en convention ce dimanche. Un rendez-vous est organisé à Dumbéa au GDPL Waka, Michael.
Une réunion qui rassemble une 60aine de responsables des différents mouvements indépendantistes qui ont fait leur entrée au front autour de l'Union calédonienne. Plusieurs points à l'ordre du jour, alors que le FLNKS ne s'était plus réuni dans ce format depuis les discussions avec Manuel Valls. Dominique Fauchy, secrétaire général de l'UC, chargé de l'animation du bureau politique du FLNKS.
En fait, c'est de faire le bilan attendions depuis des mois, puisqu'on ne s'était pas retrouvé en format plénier du FLNKS. Les retours ont été faits au bureau politique. Maintenant, c'est de le faire devant l'ensemble des groupes de pression, analyser la situation et voir comment on se projette pour la suite. Donc, on a un petit peu les points à l'ordre du jour. Il y a la partie des relations extérieures, de l'information sur le terrain, comment on s'organise, de traiter aussi, on ne va pas dire l'invitation puisqu'on n'a pas reçu. On a appris par voie médiatique que le président de la République avec le gouvernement français souhaitait inviter les responsables politiques le 2 juillet. C'est tous ces éléments-là qui vont être discutés aujourd'hui.
Le grand point à l'ordre du jour, c'est évidemment l'invitation donc du président de la République, Emmanuel Macron, aux partenaires calédoniens. Après l'échec du conclave de Deva, s'il faut reparler des pistes posées sur la table pour sortir de l'impasse concernant les discussions sur l'avenir institutionnel, le FLNKS affirme déjà sa position. Il souhaite rester sur la base de ce qui a été proposé par Manuel Valls, le projet d'indépendance, même au moment où le ministre des Outre-mer semble perdre la main sur le dossier calédonien.
En tout cas, nous, on est pour la continuité. Les discussions ont débuté depuis le 5 février. Il y a un projet qui a été déposé sur la table lors des dernières séquences. Pour nous, il est hors de question de recommencer tout à zéro, de repartir sur autre chose. C'est vrai qu'on a constaté que le président de la République, par voie de communiqué, a dit qu'il allait inviter les partenaires calédoniens. Pourquoi ce que je disais tout à l'heure, nous on est pour la continuité. Donc la continuité, c'est le travail mené par le ministre. Après ça, c'est au niveau de l'État, ça ne dépend pas de nous. Pourquoi c'est des choses qu'on va en discuter encore aujourd'hui pour pouvoir se projeter pour la suite.
Dominique Fauchy, secrétaire général de l'UC, chargé de l'animation du bureau politique du Front. Notez que des partis extérieurs ont été invités à cette convention aujourd'hui. Des représentants du Tavini polynésien, mais aussi le directeur général du groupe Fer de Lance, mélanésien, et puis des représentants de la fondation Berghof, une ONG européenne présentée comme spécialiste de la résolution des conflits internationaux sollicités par le FLNKS.
L'avenir institutionnel donc au cœur des discussions de cette convention du FLNKS, au cœur aussi du magazine Transparence, un accord est encore possible. C'est ce qu'affirme Gilles Brial, le deuxième vice-président de la province Sud et membre également de la délégation Les Loyalistes pour les discussions sur cet avenir institutionnel. Il était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence pour revenir sur l'actualité politique. Jean-François Baudin.
Gilles Brial a été interrogé sur le conclave de Deva, sur le projet de Manuel Valls et sur les nombreuses déclarations des derniers jours, mais d'abord sur l'initiative d'Emmanuel Macron qui a invité à Paris les parties prenantes du dossier calédonien. Quand on lui demande si c'est un désaveu pour le ministre de l'Outre-mer, Gilles Brial fait part de son interprétation personnelle.
Moi, ce que je sais, c'est que quand il y a la signature des accords de Matignon-Oudinot, c'est Michel Rocard qui est en avant. Quand il y a la signature de l'accord de Nouméa, c'est Lionel Jospin. Là, on voit que le dossier monte d'un cran au niveau de l'Élysée, et que c'est le président qui nous invite avec son gouvernement, dont Manuel Valls, mais pas que, hein, il ne constitue pas seul le gouvernement, à travailler sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a forcément une reprise en main et c'est, à mon sens, une forme de désaveu, pas forcément peut-être de la méthode de Manuel Valls, mais en tout cas de son projet qu'il a présenté pour la Nouvelle-Calédonie.
Le deuxième vice-président de la province Sud a par ailleurs été amené à commenter les dernières déclarations de Manuel Valls. Dans une interview sur BFM TV, le ministre des Outre-mer a dénoncé des décisions prises par la province Sud qui ont aggravé la situation des Kanaks notamment. La réaction de Gilles Brial après cette attaque.
Ça ne m'étonne pas parce que ce n'est pas la collectivité qui l'attaque, c'est ceux qui la gèrent. Ils utilisent la collectivité comme alibi. En fait, on a un problème pour Manuel Valls parce que ceux qui gèrent la province Sud aujourd'hui sont ceux qui se battent contre son projet. On est les derniers remparts finalement contre l'indépendance. Parce que c'est bien ça, son projet. Donc je ne suis pas étonné. Je trouve quand même assez bizarre qu'un ministre de l'Outre-mer soit aussi présent sur les médias nationaux. En fait, il se prépare pour 2027. Il est vraiment dans une logique de préparation au présidentiel, alors soit pour être candidat, soit pour exister dans le gouvernement d'après 2027. Mais moi, je souhaiterais que la Nouvelle-Calédonie ne soit pas utilisée comme marchepied à l'élection présidentielle, parce que là, c'est nous, les non-indépendantistes, c'est sur nous qui marchent pour avancer, et ça, évidemment, on ne se laissera pas faire. Il le sait, donc il nous attaque de Paris, c'est beaucoup plus facile. Mais je suis surtout découragé de voir un ministre d'État, parce qu'il est ministre d'État, parler comme ça d'une collectivité dont il ne connaît rien. Moi, je n'ai jamais vu Emmanuel Valls aller visiter un internat de la réussite, aller voir nos dispositifs d'insertion, qu'ils soient dans le Grand Nouméa ou dans les tribus, nos dispositifs d'accompagnement des médecins, nos dispositifs sociaux qui sont mis en place en province Sud. Il ne connaît rien de tout ça, donc il juge de loin sans le connaître, c'est dommage.
Concernant les discussions sur l'avenir institutionnel, Gilles Brial a été interrogé sur le projet proposé par Manuel Valls lors du conclave de Deva.
Ce projet, c'est l'État associé. C'est rien d'autre. C'est-à-dire que vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez, c'est l'État associé. Et l'État associé, c'est quoi ? C'est on est d'abord indépendant, on est pleinement souverain, donc l'indépendance pure de la Nouvelle-Calédonie, et parce qu'on ne sait pas gérer un certain nombre de compétences, on demande à la France, en l'occurrence, de les exercer pour nous. Donc on va déléguer une partie de nos compétences, mais on ne délègue que ce qu'on possède, c'est-à-dire qu'on a bien transféré toutes les compétences et on est bien devenu un pays indépendant. Il crée une double nationalité. Donc c'est le deuxième point qui caractérise un État associé. Et le troisième, c'est l'ensemble des attributs de la souveraineté, le siège à l'ONU, la participation à toutes les instances de pays complètement autonomes. Je regrette qu'il ne l'assume pas, c'est-à-dire qu'il nous le présente, mais qu'il ne soit pas capable d'assumer ça auprès des Calédoniens et qu'il leur dise « je vous présente l'État associé comme solution ». Je lui ai dit, moi, pendant le conclave, que les Calédoniens méritent que leur bourreau leur regarde dans les yeux. Il l'a très mal pris, mais c'est ça la réalité. Je veux dire, quand on propose un État associé, on l'assume. Donc, c'est pour ça qu'on lui a dit qu'il est revenu 40 ans en arrière sur le projet d'Edgar Pisani. C'est lui qui est resté, finalement, sur un logiciel qui a plus de 40 ans.
Et Gilles Brial relève que, curieusement, Manuel Valls veut mettre en œuvre les conséquences du oui, alors que les Calédoniens ont dit non. Il a aussi été interrogé sur le projet porté par des partisans de la France, un projet qualifié de partition. Ce n'est pas le cas, affirme le membre de la délégation loyaliste.
Le fédéralisme, pour nous, c'est clair, hein, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est un territoire fédéré de la République française. L'inscrit donc définitivement dans la Constitution française, aujourd'hui on est dans les dispositions transitoires, on conserve notre unité territoriale, l'État conserve aujourd'hui l'ensemble des compétences qu'il exerce en Nouvelle-Calédonie et nous on souhaite qu'on lui en délègue un certain nombre parce qu'on a transféré des compétences à la Nouvelle-Calédonie qu'on n'arrive pas à gérer. Donc on dit juste qu'il faut revoir les compétences entre les institutions calédoniennes, entre le gouvernement et les provinces qui finalement la Nouvelle-Calédonie sort de territoire fédéral composé de 3 provinces et on renforce les compétences des provinces. On donne la fiscalité aux provinces et les provinces viennent encore plus les outils de développement. Et ça c'est pas la partition.
Gilles Brial estime que le projet de Manuel Valls est enterré, mais que le ministre des Outre-mer a tué la perspective d'un accord sur une solution définitive. Il est toutefois convaincu qu'un accord est encore possible.
Moi, je crois qu'on peut trouver un accord. On peut trouver un accord dans les semaines qui viennent, si Manuel Valls ne pose pas un truc sur la table qui soit un repoussoir, et si on cherche plus nos convergences, et il y en a, heureusement qu'il y en a, entre loyalistes et indépendantistes. Mais l'objectif, c'est de ne pas tomber dans une trajectoire qui soit l'indépendance au bout. Mais c'est que les Calédoniens, donc les générations futures, puissent choisir leur projet, mais de manière commune, pas une partie de la population contre l'autre.
L'État doit dire clairement ce qu'il veut, ajoute le deuxième vice-président de la province sud, qui explique que s'il y a un accord à la mi-juillet, il faudra aussi se mettre d'accord sur la façon dont on organise les élections provinciales, selon quel corps électoral et avec quelles modalités pour garantir la sécurisation du scrutin. Et alors qu'il s'apprête à partir pour Paris, quand la date du rendez-vous avec le président de la République sera connue, Gilles Brial tient à assurer que ces discussions ne sont pas une partie de plaisir.
Et je veux dire aux Calédoniens, parce que souvent ils critiquent ça, ils disent « ouais, vous allez vous promener, je vous promets que c'est pas une longue promenade. Vous passez des heures enfermées avec des personnes qui n'ont pas forcément envie d'être avec vous et avec qui vous n'avez pas forcément envie d'être. Et vous êtes omnibulé par une chose, trouver une solution qui soit viable pour la Nouvelle-Calédonie et pour ceux qui y vivent, pour tous ceux qui y vivent. Donc vous n'avez pas beaucoup de moments de plaisir, vous avez des moments de prise de tête qui sont parfois violents. Et c'est ce qui s'est passé à Deva. Pendant 3 jours, on s'est battu contre Manuel Valls, contre son projet. Et je peux vous dire que c'est tendu, c'est épuisant. Il n'y a pas beaucoup de moments de bonheur à ce moment-là. On a gagné une bataille. C'est pas la guerre. La guerre, elle se jouera début juillet à Paris. C'est celle-là qu'il faut réussir à gagner pour l'ensemble des Calédoniens.
On ne sait pas encore la date précise de ce rendez-vous avec le président de la République, mais ce sera début juillet. Il y aura une séquence politique avec l'objectif de trouver un accord et une séquence consacrée à la relance économique avec la participation de la société civile, précise encore Gilles Brial.
Une interview de Gilles Brial à retrouver en audio et en vidéo sur notre site internet. Elle sera également rediffusée ce soir, juste après notre édition de 17h45. Dans une semaine, dimanche prochain, le grand départ de la New Caledonia Groupama Rail sera donné de Nouméa. En attendant, les équipages, mais aussi les bénévoles de la SNSM se préparent. Un exercice de sécurité en mer était organisé hier à l'initiative de l'équipage Guilty Pleasure et en collaboration avec le COSNC. Cet entraînement a permis de tester les capacités de réaction des bénévoles de la SNSM et des membres de l'équipage à différentes situations critiques. Avarie à bord, chute d'un équipier du haut du mât ou encore percussion d'un radeau de survie. Les détails de Marc Sabatier, président de la SNSM de Nouvelle-Calédonie.
Un exercice qui a été programmé en accord avec le CNC, avec un propriétaire d'un bateau, la Groupama, et le COS qui a coordonné tout l'exercice. Donc c'était une simulation de blessés à bord. Nous avons mis un radeau de survie à l'eau. On a fait des transbordements de blessés sur la vedette motile et tout ça coordonné par le COS. Tous les équipages de la Groupama Rail ont reçu une formation, on va dire, type médicale, qui a été dispensé par les bénévoles de la SNSM, qui leur permettait de pallier à tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir à rencontrer. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent arriver, et plus on sera entraîné, plus on pourra répondre à ce genre de problématiques.
Et des scénarios plausibles donc qui rappellent combien la préparation est essentielle pour garantir la sécurité de tous en mer. Et puis cette information pratique qui concerne la compagnie aérienne Air Calin. Encore des perturbations aujourd'hui et demain après la panne d'un avion A330neo. C'était jeudi dernier à Paris. Notamment la rotation Nouméa-Brisbane de ce dimanche. Le vol SB150 au départ de Tontouta, initialement prévu aujourd'hui et finalement programmé la nuit prochaine à 00h35. Le vol retour depuis Brisbane donc partira à 3h40 lundi matin pour une arrivée à 6h50 sur le Caillou. Concernant le vol Paris-Bangkok-Nouméa, il partira en début d'après-midi de Paris à 13h45 et se posera à la Tontouta demain à 22h25. Ensuite, tout devrait normalement rentrer dans l'ordre. Les informations sur les différentes modifications de vol sont à retrouver sur le site internet d'Air Calin. Midi et 21 minutes, première pause dans ce journal. On fera le tour de l'actualité en métropole et dans le monde juste après.
Le jeudi du centre-ville aux couleurs de Wallis et Futuna est de retour ce jeudi 12 juin sur la place des Cocotiers. Cette année, les associations mettront à l'honneur le patrimoine et la culture de l'archipel. Retrouvez plus de 70 exposants qui vous feront découvrir leurs spécialités culinaires et l'artisanat traditionnel. Danse, chant, dégustation de plats typiques feront également partie du programme. Rendez-vous jeudi 12 juin de 9h à 19h sur la place des Cocotiers. Info sur nouméa.nc ou sur la page Facebook Nouméa Ma Ville.
Ville de Nouméa, partageons l'événement.
Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Info Weekend, on retrouve Léo Fichou.
L'actualité en métropole avec cette phrase « Je n'ai pas de leçon d'écologie à recevoir ». Paroles offensives du président de la République face à la presse régionale. C'était en marge de la troisième conférence des Nations Unies sur l'océan à Nice. Emmanuel Macron qui se félicite d'avoir multiplié par plus de 4 les baisses d'émissions de CO2 de la France chaque année. Le chef de l'État qui est déjà sur la Côte d'Azur. Il est à Monaco pour une visite de 2 jours. En métropole, toujours un jeune homme de 19 ans est parvenu à prendre la fuite à Versailles alors qu'il attendait son jugement au tribunal judiciaire de la ville. Il était jugé pour tentative de meurtre et a réussi à s'évader après avoir demandé à aller aux toilettes. Une vaste opération pour le retrouver est en cours sans succès pour le moment. Flyer contre flyer dans l'Isère. Des trafiquants déposent des flyers dans les boîtes aux lettres pour attirer des clients. Les policiers ont décidé de contre-attaquer et de distribuer aussi des tracts aux habitants afin d'inciter la population à donner des informations anonymes en scannant un QR code. Les détails avec Noémie Loisel pour Europe 1.
Sur le flyer, les habitants peuvent lire « Vous êtes victime de pression. Votre montée d'immeuble est squattée. Contactez la police nationale. » Avec cette promesse, anonymat garanti, une très bonne initiative saluée par un habitant.
La possibilité de transmettre des photos, pour nous, ça peut être utile.
Mais certains craignent des représailles s'ils donnent des informations, comme l'explique Sophie, 55 ans, qui habite à quelques pas du quartier.
Certains sont vraiment menacés. On leur appartement qui est obligé de servir d'entrepôt. Certains, oui, auront peur de donner les informations.
Maryse émet aussi des doutes sur l'efficacité du dispositif.
Quand la police est à 100 mètres des endroits où ça deal et qu'elle ne bouge pas, comment voulez-vous qu'on croit qu'en flashant un QR code, ça sera plus efficace alors qu'il le voit, ce qui se passe.
Côté police, on assure qu'il est essentiel de renforcer ce lien avec la population. Jérôme Chappa est le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Isère.
Il est important pour nous d'avoir des informations en direct qui nous permettent d'être à la fois réactifs, de préciser nos stratégies, de les rendre plus efficaces.
D'autres opérations de distribution de flyers sont prévues prochainement dans d'autres quartiers touchés par le trafic de drogue.
Noémie Loisel pour Europe 1. À l'international, ces accusations mutuelles entre l'Ukraine et la Russie, les deux pays qui s'accusent de perturber un échange de prisonniers et de soldats programmé ce week-end. Échange pourtant négocié lors des pourparlers qui ont eu lieu entre les deux pays en début de semaine. Ces accusations interviennent après le lancement de frappes russes de grande envergure. Elles ont tué, on le rappelle, 5 personnes. À Gaza, au moins 36 personnes tuées par les forces israéliennes. 6 d'entre elles ont péri tout près d'un centre d'aide soutenu par les États-Unis. L'armée israélienne qui a intensifié son offensive militaire à Gaza depuis 3 semaines déjà. Par ailleurs, Israël a annoncé aujourd'hui avoir ramené le corps d'un otage de nationalité thaïlandaise. Midi 25, on marque une seconde pause dans ce journal avant de parler sport, du tennis et du karaté notamment.
ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Cette année, célébrez la fête des pères avec Nespresso. Offrez-lui un moment café inoubliable et profitez jusqu'à 15 000 francs de remise sur nos machines. Rendez-vous dès maintenant dans votre boutique Nespresso, 33 rue de Sébastopol à Nouméa, par téléphone au 050 200 ou sur notre site internet nespresso.nc. Offre soumise à conditions, disponible en boutique.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
L'actualité sportive, on retrouve Léo Fichou.
Oui, du tennis à la une de l'actualité sportive, une finale dames à Roland-Garros qui a tenu toutes ses promesses. Plus de 2h40 de jeu entre la numéro 1 mondiale Aryna Sabalenka et la numéro 2 Coco Gauff. Et au final, c'est l'américaine qui s'est imposée en 3-7. Elle remporte pour la première fois de sa carrière les internationaux de France. Et après les dames, justement, place aux hommes ce soir avec là aussi une finale de rêve. Le tenant du titre, Carlos Alcaraz, défiera le numéro 1 mondial, Yannick Sinner. La rencontre est prévue pour minuit. En rugby, les jeux sont faits. On connaît les 6 qualifiés pour les phases finales du top 14, Michael.
On jouait ce matin la 26e et dernière journée de la phase régulière. Et les enseignements à tirer sont les suivants. Toulouse et l'UBB sont directement qualifiés pour les demi-finales. Toulon, l'Aviron Bayonnais, Clermont et le Castres Olympique disputeront eux les quarts de finale. Et puis, en bas de classement, le promu Vannes redescend en Pro D2 et Perpignan disputera un match de barrage face à Grenoble, défait en finale de Pro D2 par Montauban, 24 à 19. Montauban, sacré donc, champion de France de Pro D2 et qui accède directement à l'élite. Les résultats de cette 26e journée, défaite surprise de Toulouse face à Perpignan, 42-35. Victoire de l'UBB sur Vannes, 59 à 28. L'Aviron Bayonnais a dominé Toulon, 18 à 10. Clermont s'est imposé à Montpellier, 23 à 10. Le Stade français est venu à bout du Castres Olympique, 21 à 10. Pau est sorti vainqueur de son duel face au Stade Rochelet, 32-18. Et enfin, dans un match sans enjeu, le Racing 92 est allé battre le Loup, 47 à 34.
Les sports mécaniques, à présent, on parle de rallye et de MotoGP.
Oui, en MotoGP, les pilotes sont en Espagne sur le circuit d'Aragon. Sans surprise, c'est Marc Marquez qui a réalisé le meilleur temps des qualifications et qui a remporté la sprint race devant son frère Alex. Fabio Quartararo chez les Français a terminé 11e, Joan Zarco 16e. Le Grand Prix à suivre dès 23h ce soir en rallye sur les routes de Sardaigne en Italie. C'est un Français qui est en tête après 12 des 16 spéciales, Sébastien Ogier qui devance Ott Tanak et Kaleur Vampera.
Un mot de tennis de table. Pas de finale pour l'épongiste calédonien au championnat d'Océanie. Olivier Clouet, Jérôme Morisseau, Jérémy Day et Rémi Keane sont actuellement en Nouvelle-Zélande à Christchurch. Malheureusement, l'équipe masculine s'est inclinée ce matin en demi-finale 3-0 contre l'Australie. Défaite de Jérémy Day, de Jérôme Morisseau et de Raphaël Keane, à chaque fois sur le score de 3-0. Mais ce n'est pas terminé pour les Cagous qui défieront Tahiti à 13h lors de la petite finale. Et puis notez d'ores et déjà que les compétitions en simple hommes et dames débuteront demain matin avec les matchs de poule.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
L'actualité sportive sur le territoire maintenant du karaté. Les Océanias se sont achevés hier à la salle Omnisport de Lansvata. Un grand rendez-vous pour la discipline à Nouméa avec près de 300 participants qui étaient engagés, toutes catégories confondues, Michael.
Ouais, l'Australie a terminé en tête du classement des médailles avec 85 podiums pour 32 médailles d'or. La Calédonie finit en deuxième position. 28 médailles au total, dont 8 en or, 10 en argent et 10 en bronze. Pour terminer devant la Nouvelle-Zélande qui complète le podium, le cadre technique du comité régional de karaté, Grégory Panier.
Belle satisfaction parce que on n'avait pas mis d'objectif de résultat. Donc voilà, l'objectif c'était de pouvoir permettre aux jeunes et aux moins jeunes de reprendre la compétition, de se remotiver et puis d'avoir des objectifs. Et ben, le contrat il est rempli parce que ben on revient avec pas mal de médailles, dans des médailles d'or. Et en fait, ce qui nous manque c'est de l'expérience, surtout dans les catégories cadets, juniors et seniors, où là ça va très vite. Et puis on a des Australiens, des Néo-Zélandais qui tournent au niveau mondial. Donc Voilà, nous, ce qui nous manque, c'est de l'expérience pour poser notre karaté, parce qu'on a tous les outils tactiques pour pouvoir faire face. Et le bilan est positif pour moi.
Et ces Océania de karaté qui ont attiré des centaines de spectateurs tout au long de ces deux jours à la salle Omnisport de Lanzvata.
Le sport sur le territoire, toujours avec du tir à l'arc, un week-end consacré au passage de plumes et de flèches, synonyme de progression dans la discipline pour les licenciés du Dumbéa Archery Club. Rencontre avec Jean Delannay, président du club, qui passait sa flèche d'argent.
C'est un peu spécial, il y a un peu de fébrilité parce que c'est le passage de grade.
Qu'est-ce que c'est le passage de grade ?
Passage de grade, alors ça s'appelle des passages de plumes pour les jeunes et des passages de flèches pour les adultes. Et en fait, il faut faire un certain score à une certaine distance.
Pour valider un passage, il y a quoi comme différents niveaux ?
Alors les plumes sont aux couleurs des blasons, plumes blanches, plumes noires, plumes bleues, plumes rouges et plumes jaunes. Les flèches, c'est pareil, hein, donc pour les adultes à différentes distances. Et après, il y a des flèches longue distance qui sont très dures à avoir. C'est les flèches de bronze, flèches d'argent et flèches d'or.
Ça, c'est des petits objectifs dans une carrière d'archer.
Ce sont des beaux objectifs dans une carrière d'archer.
Et on voit qu'il y en a pas mal sur votre chapeau.
Il me manque l'argent et l'or.
Un prochain objectif ?
L'argent, c'est à 60 mètres, oui. Et l'or, c'est à distance olympique, 70 mètres.
On y est presque ou pas ?
Non, pas encore.
Et malheureusement, pas de flèche d'argent pour cette fois, mais Jean Delannay, président du Dumbéa Archery Club, je le rappelle, s'est promis de retenter sa chance très vite. D'autres résultats et rendez-vous sur le territoire, Mickaël.
Oui, du foot avec hier soir la victoire de la sélection A de Nouvelle-Calédonie sur celle des moins de 20 ans dans un match de gala au stade Nouma Dele. Victoire des Calédoniens sur le score de 4-0 face à leur Cadem. La natation avec la deuxième étape du circuit 25 mètres hier à la fois, avec de nombreux nageurs. Côté résultat chez les hommes, Etam Slidjob l'emporte sur le 200 mètres nage libre, tout comme Emmanuel Marquet sur le 50 mètres d'eau, Enzo Medal Takase sur le 100 mètres papillon, Luc Mercier sur le 200 mètres 4 nage. Chez les dames, Camille Jarcet remporte le 200 mètres nage libre, tout comme Lucia Lahacha sur le 50 mètres d'eau, Manon Baldovini sur le 100 mètres papillon et Clara Delunel sur le 200 mètres 4 nage. Et puis ce dimanche, il y a encore du motocross à Païta, le trophée de Païta, premier rendez-vous de l'année sur le territoire depuis 9h avec pas moins de 30 pilote engagé.
Merci beaucoup Mickaël Juneski, c'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Il sera disponible en podcast dans quelques instants sur notre site internet le www.rrb.nc. On se retrouve à 13h pour le Flash, à tout à l'heure.